Un budget en baisse de 10% par rapport à 2024 pour la province sud. Décision prise ce matin par les élus qui étaient réunis en assemblée de province pour adopter leur budget primitif 2025. Grand jour pour Air Calin. Le vol inaugural Nouméa Paris via Bangkok s'est posé la nuit dernière à l'aéroport Charles de Gaulle sans encombre. Un vol historique selon son directeur général. Instaurer un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés sur la commune du Mont-d'Or, c'est la proposition des élus de la commune qui devrait prochainement être soumise au Haut Commissariat. Le Betty Show sera encore à l'arrêt demain. Des travaux doivent être effectués avant une validation dans l'après-midi. Le manque de services de santé en province nord inquiète. Une manifestation s'est déroulée hier devant les hôpitaux du Nord. Une démarche notamment soutenue par Wilfried Weiss, le maire de Coumac. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. À la une de l'actualité, la province sud adopte son budget primitif. Il s'élève à 51,1 milliards de francs pour 2025, soit une baisse de 10% par rapport à l'année dernière, Jean-François Baudin.
Un budget primitif contraint mais moins catastrophique que le scénario présenté lors du débat d'orientation budgétaire au mois d'octobre. L'exécutif prévoyait alors de diviser les investissements par deux ou par quatre et de mettre fin à l'ensemble des dispositifs d'aide sociale. La situation ne s'est pas améliorée entre-temps. La province sud estime toujours la baisse des recettes de l'ordre de 29% pour l'année prochaine, ce qui représente 16,35 milliards de francs. Mais elle anticipe une aide de l'État pour 2025 à hauteur de ce qui était prévu dans le projet de loi de finances. Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
Ce qui s'est passé le 13 mai, c'est la responsabilité de la CCAT. C'est eux qui ont décidé de tout casser. Mais on est un territoire de la République, on l'a choisi par trois fois. Et l'État doit nous traiter comme un territoire de la République. Et malheureusement, sur le sujet financier, on a parfois l'impression d'être traité comme un pays étranger. Nulle part sur le territoire de la République, on accepterait que la protection sociale ne soit plus financée. On n'a malheureusement pas eu les moyens de payer, comme on le fait d'habitude au mois de décembre, les bourses du mois de décembre des étudiants qui sont en métropole notamment, qui souvent n'ont pas de famille, donc qui se retrouvent en grande difficulté financière. Et ça, ça serait accepté nulle part sur le territoire de la République. Je crois que c'est un regret que nous avons tous unanimement, solidairement, de ne pas être accompagnés à la hauteur de ce qu'on devrait être.
Voilà, Sonia Baquès qui regrette donc, vous l'avez entendu, que l'engagement de la part de Paris ne soit pas plus important, mais elle a donc anticipé dans le budget primitif, l'aide de 2025 de l'État à hauteur de ce qui était donc prévu dans le projet de loi de finances.
J'ai choisi effectivement de considérer que l'aide de l'État qui était prévue initialement dans le projet de loi de finances nationale et qui n'a pas pu être adoptée puisque le gouvernement Barnier est tombé entre-temps, j'ai fait le choix de garder cette inscription budgétaire, même si pour l'instant on en attend vote au niveau national. Si on ne le faisait pas, c'était l'effondrement de la quasi-totalité des dispositifs de la province, des dispensaires, des bourses, qui tombaient de fait. Donc on a fait un choix uni, solidaire de l'ensemble de l'Assemblée de province de maintenir tout ça. C'est 10% de moins qu'on a inscrit aujourd'hui, ce serait 30% si on n'avait pas d'aide de l'État. Donc à 30%, la province ne peut pas se relever. À 10%, c'est beaucoup d'efforts. C'est aussi le choix volontaire de prendre acte de ce qui s'est passé le 13 mai. Et aujourd'hui, nos aides doivent aller envers les gens qui travaillent ou qui ont envie de reprendre le travail, qui effectivement sont en difficulté, mais qui cherchent à travailler et à produire pour la collectivité.
Dans ce budget primitif 2025, la province sud a souhaité maintenir un niveau d'investissement conséquent. 9 milliards de francs seront ainsi alloués à la relance, avec notamment l'aménagement du réseau routier, 1,58 milliard, et la reconstruction et l'aménagement de bâtiments pour 2,2 milliards, ou encore pour les collèges, 1,24 milliard. Concernant le fonctionnement, l'enveloppe est de 39,1 milliards. 54% sont consacrés à l'enseignement, à la santé et au social. Le budget primitif 2025 de la collectivité a été adopté à l'unanimité. Les groupes Calédonie Ensemble, Éveil Océanien et FLNKS Sud se sont abstenus. À Losio Sacco pour le groupe indépendantiste.
Au-delà des aides qu'il faut apporter à ces populations qui traversent en ce moment des jours difficiles, mais il faut repenser le modèle sociétal. Sinon, tous les ans, on n'arrête pas. Le problème de la jeunesse, c'est des mesurettes. On ne s'attaque pas au problème des fonds concernant cette jeunesse. Simplement, on a proposé que c'est l'occasion pour l'institution de repenser le modèle sociétal. Il y a un mal-être et nous avons pas mal d'atouts. Et il y a des interdits qu'il faut lever. Par exemple, pour l'accès à la mer, et puis au foncier. Contrairement aux autres qui regardent la métropole avec les mains tendues, nous, on regarde ici, où nous avons pas mal d'atouts. Et il faut mettre ces atouts à la disposition de nos populations.
Et la prochaine assemblée de province est prévue le 13 février prochain, sauf besoin de convocation urgente.
L'annonce de la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel, mais aussi la situation financière de la Nouvelle-Calédonie et de la province sud, il en sera question demain midi dans le magazine Transparence. C'est Sonia Baquès qui sera l'invitée d'Elisabeth Noir pour évoquer les dossiers chauds de l'actualité calédonienne. Un magazine Transparence à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et demain, et depuis mardi, la police nationale est dirigée par la contrôleure générale Marjorie Ghisoli. Elle a pris ses fonctions de directrice territoriale de la police nationale à l'issue d'une cérémonie mardi et succède donc au commissaire général Jean-Marie Cavier. Marjorie Ghisoli sera notre invitée demain matin à 7h30 pour nous parler de sa mission et de ses axes de travail. La décision modificative numéro 6 du budget de la Nouvelle-Calédonie a été adoptée à l'unanimité hier par les élus du Congrès. Mais les problèmes financiers de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas réglés pour autant, Elisabeth Noir.
La chute du gouvernement Barnier, vous le savez, a empêché l'adoption du budget 2025, qui est la loi spéciale évoquée par le président de la République dans son allocution de jeudi dernier, ne pourra pas prendre en compte plusieurs mesures qui étaient prévues dans ce projet de loi de finances. Lors de la réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale, cette nuit pour nous, le député Nicolas Metzorf a attiré sur ce point l'attention des ministres des Finances et des Comptes publics.
Il va falloir qu'on parle de 2025 parce que la censure a une vraie conséquence sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas si on va pouvoir payer nos fonctionnaires janvier, février, mars. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire une exception dans cette loi spéciale? Est-ce que l'urgence nationale peut être décrétée? Ou sinon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour nous, l'urgence, elle est réelle, totale, et c'est dans 15 jours. Donc cette censure n'arrive vraiment pas au bon moment. Donc quand on parlait de chaos tout à l'heure, je peux vous dire que le chaos en Nouvelle-Calédonie, il est déjà là.
C'est d'abord le ministre démissionnaire de l'économie et des finances, Antoine Narmand, qui a répondu aux députés calédoniens. Il reconnaît que la censure et l'absence de budget ont des conséquences lourdes pour la Nouvelle-Calédonie.
L'absence de projet de loi de finances, l'absence de budget voté, adopté, ne nous permet pas d'accorder le prêt de 1 milliard d'euros pour la Nouvelle-Calédonie qui était prévu par l'Agence française de développement et qui visait à sécuriser le paiement des situations d'urgence, le paiement des fonctionnaires, les aides critiques dans la situation que vous connaissez mieux que quiconque. De même, l'absence de loi de finances ne nous permet pas l'extension, la généralisation des mécanismes d'avance remboursable et de court terme sur les ressources du Trésor que nous avons utilisées à plusieurs reprises ces derniers mois face à l'urgence et conscient de la situation que les acteurs politiques et économiques était venu nous expliquer à Laurent Saint-Martin et à moi-même. Seules demeurent les aides exceptionnelles relevant des mesures d'urgence nécessaires à la continuité de l'État, mais qui ne représentent pas ni les montants ni les ordres de grandeur nécessaires aux éléments que vous avez évoqués.
C'est ensuite le ministre démissionnaire du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin, qui a fait le point de la situation calédonienne.
Plusieurs mesures en faveur de la Nouvelle-Calédonie qui étaient prévues dans le PLF 25, fiscales notamment, ne peuvent pas être couvertes par la loi spéciale. Donc, il y a plusieurs sujets là-dessus. Il y a le prêt de 1 milliard d'euros de l'AFD, parce que c'était les garanties d'emprunt qui relèvent du monopole des lois de finances. Donc là, on a une problématique. On a le soutien aux entreprises touchées par les événements de Nouvelle-Calédonie, SOGEFOM. On a l'intégration de la Nouvelle-Calédonie à la liste des territoires éligibles au taux de réduction d'impôts majorés, de la défiscalisation de l'acquisition des friches commerciales faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde. Autre problématique que l'absence de texte crée, l'extension et la généralisation du mécanisme d'avance remboursable de court terme sur les ressources du Trésor en cas de difficulté de trésorerie, autre problématique là-dessus. Néanmoins, un mécanisme dérogatoire permettant d'avoir recours à une avance remboursable en cas d'urgence pourrait être mis en œuvre le cas échéant. Par ailleurs, sur les dépenses qui relèvent du décret et services votés, comme je l'ai dit, vu le caractère d'urgence, il faudra regarder au cas par cas pour pouvoir permettre de faire face justement à cette urgence si elle est bien caractérisée dans la limite des crédits de la loi de finances initiale de 2024. Donc là, il faudra attendre à post-promulgation pour regarder comment tout ça peut être mis en œuvre.
Et dans un communiqué, le député Nicolas Metzorf précise que toutes ces mesures ne pourront être mises en œuvre que dans le cadre de la formation d'un nouveau gouvernement. En attendant, des solutions dérogatoires d'urgence pourraient donc être trouvées. Le député de la première circonscription indique qu'il va y travailler lors de l'examen de la loi spéciale qui est prévue aujourd'hui en commission des finances et le 16 décembre en séance publique.
Et les avions d'Air Calin s'invitent dans l'hémicycle du Congrès. Il en a été question hier lors de la très longue séance du Congrès qui a abouti notamment à l'adoption de la DM6, la fameuse délibération modificative numéro 6 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie.
Les élus ont débattu près de 10 heures hier pour voter l'ensemble des textes inscrits à l'ordre du jour et c'est un peu avant minuit et après de très longs débats et quelques joutes oratoires que la DM6 a été adoptée à l'unanimité des groupes politiques. Et en toute fin de séance, vous le disiez, l'aide au transport aérien a également révélé une fracture entre le Congrès et le gouvernement. Brieuc-Frogier, élu Les Loyalistes, a tenu à attirer l'attention du président du gouvernement sur la volonté d'Air Calédonie International d'acheter deux A350 neufs.
Je découvre que le président du conseil d'administration de la DANC part à Paris pour négocier l'achat des avions. Donc là, on vient de pleurer misère pour récupérer pour la Calédonie entière 27 milliards et on maintient un voyage pour aller négocier les avions pour un montant de 46,5 milliards. Avec un acompte prévu en 2024 de 5 milliards. Avec un acompte prévu en 2025 de 4 milliards. Avec un acompte prévu en 2026 de 17 milliards 8. Quand j'ai repris ces chiffres-là, je me suis dit que c'était une blague. On est au courant de rien. On est mis devant le fait accompli sur quelque chose qui dépasse l'entendement.
La Nouvelle-Calédonie a-t-elle les moyens de faire ça? C'est ce qu'a demandé Brieuc-Frogier au président du gouvernement, Louis Mapou, qui lui a répondu.
Dans le contexte actuel, non. Il n'en demeure pas moins que nous devons garder la perspective de poursuivre le développement de cette société et c'est ce qui est fait avec cette ligne directe Nouméa-Bangkok-Paris. Mais il est évident que compte tenu de cette situation financière et de la situation financière de la société, ce que vous indiquez devra être révisé.
Et Brieuc-Frogier a alors directement mis en cause l'attitude du membre du gouvernement en charge des transports, en l'occurrence Gilbert Thuénon.
Aujourd'hui, on a perdu 17, 18, 20% des recettes fiscales. On ne sait même pas comment on va payer les salaires. On ne sait même pas comment on va donner des subventions aux associations. Et on nous fait croire qu'on va aller acheter des avions. 46,5 milliards. Monsieur le Président, s'il vous plaît, essayez de raisonner votre membre du gouvernement en charge des transports. Il vit dans un autre monde. Il ne vit pas dans le monde dans lequel on est.
Et c'est l'un des échanges nombreux qui ont émaillé hier la longue journée de travail des élus du Congrès.
Et justement, un Airbus A300neo frappé de l'hibiscus s'est posé pour la première fois à Roissy, mercredi à 17h25, après une courte escale à Bangkok. Pour l'occasion, le terminal C de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était aux couleurs de la Nouvelle-Calédonie pour célébrer l'arrivée du Luangoni, selon le nom de baptême de l'appareil de la compagnie Air Calin, qui était parti de la Tontouta dans la nuit de mardi à mercredi. Un vol historique pour le directeur général d'Air Calin, Georges Sélefène, présent à bord de ce vol inaugural.
C'est un événement exceptionnel, un événement qui marque un tournant pour la compagnie, un tournant historique, puisqu'aujourd'hui, en moins de 24 heures, on a relié Nouméa à Paris avec notre escale intermédiaire à Bangkok de 2 heures. Le vol s'est très bien passé, avec beaucoup de satisfaction, et on a pu expérimenter cette nouvelle route qui est exceptionnelle. C'est une première étape, ça a été une étape un peu bousculée, puisque nous avions prévu d'ouvrir ce projet qu'en fin 2026. Là, avec la situation en Calédonie, on n'a pas eu le choix que de le faire en moins de 6 mois. Et je salue d'ailleurs tous celles et ceux qui ont pu travailler pour que ce projet puisse devenir une réalité aujourd'hui. C'est même une manière pour nous de continuer à survivre à la situation, puisqu'on va chercher le revenu complémentaire qui nous manque face à la baisse de trafic de moitié qu'on subit aujourd'hui.
Autre particularité de cette nouvelle route entre Nouméa et Paris, les passagers ne changent pas d'appareil. C'est le même A300neo qui assure la totalité du voyage. Le vol d'Air Calin devient donc par la même occasion le vol le plus long au départ de Roissy. Une performance saluée par Pierre Abraham, le directeur adjoint de l'aéroport de Paris.
C'est un vol un peu magique. C'est le plus long au départ de Paris, même s'il est avec escale. 22 heures, c'est quand même une très belle performance opérationnelle car Calin nous offre en opérant cette route. D'abord et avant tout, un nouveau lien entre la Calédonie et la France. Et ça, ça fait partie aussi de l'ADN de l'aéroport que de rapprocher les territoires et les territoires d'outre-mer. Donc déjà, c'est primordial, ça vient renforcer cette offre. Après, le fait que ça s'arrête à Bangkok offre des nouvelles opportunités pour les Français d'aller à Bangkok ou les Thaïlandais, même s'il y avait déjà une offre assez importante. Et c'est surtout pour les Calédoniens et les Thaïlandais d'avoir des échanges entre les deux pays. Et ça, c'est une vraie opportunité. Et ça participe de l'ensemble de cette route. Donc c'est important que tous les tronçons, comme on appelle ça, marchent et soient commercialisés. Et on souhaite le succès à Air Calin dans cette commercialisation.
Plusieurs personnalités politiques étaient à bord de ce vol inaugural, et notamment Gilbert Thuinon, membre du gouvernement en charge des transports, Michael Forest en charge du tourisme, Omera Neslin, membre du groupe UCFL-NKS au Congrès, ou encore Vaïmoua Mouliava, élu de l'éveil océanien. Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert, et j'ajoute qu'à Roissy, les passagers ont été accueillis par le groupe de danse Kanak Kagou en scène. Notez enfin que le vol retour s'est posé à Bangkok à 17h48 exactement, heure de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 83% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que la nouvelle ligne Nouméa-Paris via Bangkok, entièrement opérée par Air Calin, puisse permettre le redressement et le développement de la compagnie aérienne. Ils sont 17% à être d'un avis contraire. Et notre question du jour, approuvez-vous la DM6 adoptée par les élus du Congrès? Si vous approuvez cette décision modificative, vous tapez 1. Si vous ne l'approuvez pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
RRB, il est 18h01.
Actualité politique. Après l'Union calédonienne, c'est le Palika qui réagit à l'annonce d'un calendrier de reprise des discussions sur l'avenir. Une annonce faite ce week-end à l'issue d'une réunion de travail de la délégation transpartisane avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, Elisabeth Noir.
Dans un communiqué, le Palika s'étonne de l'annonce d'un séquençage des discussions alors que l'État dans son ensemble n'a aucunement indiqué quelles sont ses intentions dans l'approche des négociations. Pour le Palika, il faut que l'État annonce l'ouverture des négociations sur l'avenir, à moins, écrit-il, que les présidents Larcher et Braun-Pivet soient officiellement les négociateurs de l'État. Le Palika relève également que c'est sur les groupes politiques du Congrès que s'appuierait le dialogue politique, un format qui pour lui mérite une attention particulière au vu des difficultés traversées par la Calédonie ces dernières années et depuis que le comité des signataires a été abandonné. La légitimité des négociateurs est une véritable question, indique le Palika. Il s'interroge aussi sur la référence aux deux documents issus des travaux menés jusqu'au 13 mai 2024. Il se demande s'ils sont d'actualité et s'ils ont fait l'objet d'une validation politique de la part des parties concernées pour que l'on en fasse ainsi état publiquement. S'agissant par ailleurs du soutien financier de l'État, le Palika exprime sa crainte que les propos tenus par les membres de la mission à l'égard du gouvernement collégial et les annonces contenues dans le communiqué des présidents des deux assemblées ne décrédibilisent l'action du gouvernement collégial et ne sèment le trouble dans la conduite, le format et le contenu des discussions sur l'avenir institutionnel. En conséquence, le Palika appelle à la vigilance et il dénonce ce qui pour lui s'apparente à des stratégies électoralistes et populistes visant, sous couvert de contact avec l'État, à imposer une nouvelle configuration des instances de discussion sur l'avenir institutionnel, tant sur la forme que sur le fond.
Merci Elisabeth Noir. 18h passé de 3 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité économique sur le territoire. A tout de suite.
Peps, ouais c'est moi, ta conscience. Je sais, je suis chiant. Mais sérieux, t'as bu combien de bières ce soir? Tu crois vraiment que ça vaut le coup de risquer ta vie parce que t'as fait la fête et que t'es un peu fatigué? Et tes potes que tu ramènes, tu les respectes? Allez, laisse tes clés à quelqu'un qui a pas bu. Si tu conduis, c'est zéro alcool.
T'as raison. Moi, sur la route, c'est responsabilité, respect, humilité.
Ça roule.
Sécurité routière, vivre ensemble.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du Haut-Commissariat.
Votre enfant a grandi, il devient trop grand pour la crèche ou pour la nounou, mais il n'a pas encore l'âge pour la maternelle. Éducare a la solution. Éducare, une prématernelle idéale pour l'épanouissement et la sécurité de votre enfant. Avec son jardin de 500 mètres carrés, un grand nombre d'activités, une équipe professionnelle et diplômée. Appelez le 25 96 01 ou sur Facebook Éducare NC.
Oh, oh, oh! C'est Noël chez Mazda. Nous avons le plaisir de vous accueillir au showroom de Magenta.
À Noël, offrez à votre famille le cadeau parfait avec Mazda. Alliez qualité et prix attractif pour des moments inoubliables ensemble. Faites de cette fête un moment spécial où chaque trajet devient une aventure en famille. Toute l'équipe Mazda vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sud-Est au soir avec vous, Lana Colombo.
Comment mesurer la crise économique générée par les émeutes ? Jean-François Baudin, les instituts spécialisés utilisent pour cela un certain nombre d'indicateurs dont vous avez parlé ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
Oui, certains de ces indicateurs existaient bien sûr déjà avant la crise et ils permettent aux instituts, notamment l'ISE, de sonder la réalité de la vie en Calédonie, y compris dans ses aspects économiques. L'IOM utilise aussi ces indicateurs et notamment le fameux climat des affaires qui permet de prendre le pouls de chaque trimestre auprès de 200 chefs d'entreprise. Un indicateur qui a atteint son plus bas historique, nous a dit le directeur de l'IOM, Fabrice Dufresne.
À la fin du mois de juin, on était à l'indicateur du climat le plus bas depuis qu'on a mis en place ce type d'enquête. Ça fait 25 ans qu'on réalise ces enquêtes. Donc on est arrivé à 65. Donc 65, c'est en dessous de la ligne de 100. C'est-à-dire que le moral des chefs d'entreprise à fin juin était vraiment au plus bas. Il est remonté très légèrement à fin septembre, à hauteur de 74. Donc, mais il reste
qui
encore...
Qui reste très bas.
Bah, ouais. Qui reste encore très bas. Alors, c'est une très timide amélioration, mais on n'a même pas rattrapé le chiffre de la Covid qu'on avait atteint donc, dans les années 2020. Donc, c'est extrêmement encore dégradé.
Mais pour bien mesurer les impacts de la crise, il a fallu aussi créer de nouveaux indicateurs. L'ISE exploite ainsi désormais les données de la CAFAT et de la Direction du Travail, ce qui a permis de détecter une anomalie entre le nombre d'emplois détruits, près de 9000, et celui des personnes qui bénéficient du chômage total, a expliqué Élise Desmazures, la directrice de l'ISE.
On a 9000 personnes qui ont perdu leur emploi salarié et 6000 qui sont indemnisées. Ça veut dire qu'on a à peu près 3000 personnes qui, pour différentes raisons, aujourd'hui n'ont pas de revenus de compensation, très certainement. Ça peut être des gens qui n'ont pas fait les démarches, ça peut exister. Ça peut être surtout des gens qui ne peuvent pas prétendre au dispositif. On sait que le dispositif exaction, il est bien plus ouvert que celui de droit commun. Mais il faut que l'entreprise soit reconnue comme ayant été touchée par les exactions. Donc toutes ces entreprises qui ne sont pas concernées par ce périmètre et qui se séparent de leurs employés, ben ces employés, s'ils n'ont pas travaillé suffisamment d'heures, et ben ils se retrouvent sans chômage. Et après, il peut y avoir effectivement plein d'autres cas, des gens qui ne remplissent pas d'autres conditions que le temps de travail, des gens qui ont éventuellement quitté le territoire. Mais en tout cas, oui, c'est spécialement inquiétant pour ces 3000 personnes.
Le volume d'importation ou d'exportation, les valeurs de transaction ou de retrait par carte bleue et d'autres indicateurs ont été évoqués pendant cette émission. Ils permettent donc d'apprécier cette crise, mais aussi de la qualifier, comme l'a fait le directeur de l'IOM, Fabrice Desmazures.
Vu le regard des instituts d'émission qui exercent dans les Outre-mer depuis plusieurs décennies, on en a connu des crises dans d'autres collectivités d'Outre-mer. Et celle qu'a connue la Nouvelle-Calédonie, on l'a connue bien avant, c'est la crise la plus profonde, la plus violente, la plus aiguë, qui a des répercussions les plus élevées sur le plan économique, voire, pas encore j'espère, mais sur le plan social aussi. Après, sur les perspectives de retournement, de rebond, si on peut appeler ça, on est encore dans la phase de sauvegarde et pas encore dans la phase de reconstruction. Sur les estimations de reprise, l'année 2025 va être, selon nous, une année encore assez blanche, parce qu'il y a encore des entreprises qui attendent le versement des assurances. Il n'y a pas de reprise du crédit bancaire, puisqu'on a observé une chute très brutale de la production de crédit bancaire. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut instaurer, en fait, un climat de confiance et de stabilité qui est la donnée incontournable pour faire redémarrer l'économie. Et tout ça, ça relève bien entendu de l'obtention de la signature d'un accord politique global.
Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM, une crise profonde donc, dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences, a poursuivi Élise Desmazures.
Effectivement, c'est une crise profonde et une crise assez inédite avec les partenaires Sérum, l'Institut d'émission et l'AFD. On essaie justement de mesurer les impacts et on se rend bien compte que techniquement et méthodologiquement, l'exercice est très compliqué puisque cette crise elle a plusieurs dimensions. Ensuite, ce qu'on constate, c'est effectivement la perte de confiance qui est vraiment la donnée la plus importante à retenir. Il faut vraiment ce retour de la confiance. On suit le nombre de transactions immobilières, par exemple, et on voit bien que personne n'a trop envie d'investir aujourd'hui. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment cette histoire de précarisation. Je vous parlais des 3000 personnes dont on ne sait pas trop de quoi elles vont vivre. On a aussi des gros problèmes par rapport au prix du transport. On sait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se rendre sur leur lieu d'emploi et donc qui risquent de le perdre pour ces raisons-là. On a même des étudiants qui ne parviennent pas à assister à leurs cours parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer. Donc nous, c'est vraiment cet aspect-là qu'on aimerait pouvoir suivre d'une meilleure manière et qui nous inquiète pour la reprise.
Des extraits des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui sont retrouvés en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Les élus du Mont d'Or étaient réunis pour le dernier conseil municipal de l'année. À l'ordre du jour, Charlotte Coulson, pas moins de 19 délibérations.
L'année a été très longue pour les Calédoniens et particulièrement pour les Mondoriens. Alors le dernier conseil municipal 2024 l'a été aussi. Évidemment, les discussions ont longtemps tourné autour du budget de la commune. Depuis le milieu d'année, la ville cumulait quelques centaines de millions d'impayés dus aux organismes subventionnés. Soulagement du maire, Eddy Le Courrieux, ces sommes ont finalement pu être versé.
Ce long conseil municipal, hein, ça a été aussi d'attribuer les aides et les subventions aux organismes qu'on avait mis de côté, le SMTU, la Caisse d'école, le Centre communal d'action sociale, la CECAL. C'était des grosses sommes, plus de 270 millions, qu'on peut aujourd'hui payer grâce à nos prêts-relais, grâce à nos lignes de trésorerie, puisqu'on a pu sortir un emprunt de 200 millions. Et puis on a pu avoir une ligne de trésorerie de 800 millions. Plus l'État qui nous a aidés sur des petites opérations. Toutes ces petites mesures qui consistent à repousser un peu les échéances. Mais évidemment, si on n'a pas des fonds qui arrivent en début d'année ou cette année par la loi de finances qui a été votée par le Congrès, l'année prochaine, ça sera une année plus que dure pour construire un budget.
Et au cours du Conseil, un temps spécifique était accordé au volet sécurité dans la commune. La situation préoccupe les élus comme les groupes d'opposition. C'est en ce sens que Génération Mondor a déposé un vœu proposant l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs de 22h à 6h du matin pendant la durée des vacances scolaires, soit du 14 décembre au 16 février. Nina Julier, membre du groupe Génération Mondor, est sortie plutôt satisfaite du conseil municipal.
Dans notre commune, les faits de cambriolage et de délinquance ont augmenté de 50% suite aux exactions. Et donc avec l'approche des vacances scolaires, on pense qu'il faut faire de la prévention, limiter les sorties malheureusement, et pouvoir donner la possibilité aux forces de l'ordre d'avoir un cadre légal et de pouvoir prendre des sanctions. On est très satisfait à Génération Mondor puisque le maire, pour une fois, est allé dans notre sens et a voté le vœu. Et il pourra ainsi le transmettre au commissaire avec l'ensemble des voix du conseil municipal. Et j'en suis persuadée, le haut commissaire sera à l'écoute parce qu'il est très à l'écoute de ce qui se passe dans notre commune. Et je suis persuadée qu'il adoptera ce couvre-feu pour la commune du Mondor.
Le groupe Génération Mondor, qui avait initialement proposé que les mineurs de moins de 16 ans soient soumis au couvre-feu. Après vote du conseil municipal, la proposition mentionne un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés. Toujours dans le volet sécurité, un dispositif de participation citoyenne pourrait être mis en place dans la ville. Une subvention a également été accordée par la province sud, 42 millions de francs investis dans la politique sécuritaire du Mont d'Or.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Comment se passe la reprise des activités à l'usine du Sud ? Après 6 mois d'arrêt, Prony Resources avait annoncé une remobilisation complète des équipes le lundi 18 novembre. Lundi dernier, c'est le redémarrage des activités industrielles et minières qui était annoncé. Désormais, la reprise se fait progressivement, comme l'expliquent ces deux opérateurs travaillant sur site.
Pour le moment, l'usine elle est toujours à l'arrêt. Malheureusement, on a rencontré quelques problèmes techniques qui peuvent être résolus, mais l'usine n'a toujours pas redémarré. C'est en cours et espérons que ça réussisse. On a beau essayer de les nettoyer, de les arranger, de les faire tourner de temps en temps, mais quand il faut reprendre une activité à long terme, il y a quelques soucis pour ça, oui.
Non, là, la production n'a pas encore repris. Du coup, la reprise, elle est doucement. On reprend tout doucement. Ça démarre de la mine. Tous les chargements de la mine, ensuite ça descend sur l'usine. Et là, la mine, eux, ils sont prêts, ils nous attendent juste nous en bas à l'usine. Là, il y a plusieurs secteurs dans l'usine et on est obligé d'attendre que d'autres secteurs démarrent avant pour que la fin de la chaîne quoi, des secteurs, ils puissent faire de la production. Dans l'objectif, normalement, c'était à partir du quart prochain, du 15 décembre, normalement, on doit démarrer les premiers secteurs et tout doucement les autres secteurs qui démarrent.
Un redémarrage vital mais qui ne garantit pas la pérennité à long terme, PRNC espère retrouver la performance du premier trimestre 2024, soit une production de 3500 tonnes par mois. Transport en bref et le Bétitcho toujours en attente d'autorisation pour redémarrer. Victime de plusieurs pannes, notamment au niveau du moteur et du groupe électrogène d'urgence, le bateau est à l'arrêt complet depuis le 18 novembre. Les équipes techniques doivent encore intervenir demain. La compagnie Sudil attend la validation des contrôleurs demain après-midi pour reprendre les rotations. Le trajet pour les îles Loyauté prévu demain a donc été annulé. Les passagers ont été prévenus. Le prochain voyage devrait se dérouler ce samedi si toutes les les conditions sont réunies. Transport toujours, des modifications sur les horaires des navettes maritimes entre Nouméa et le Mont d'Or Sud. Des changements qui étaient attendus et qui seront effectifs dès ce week-end, Léo Fichou.
Et oui, la province sud s'adapte à la période de vacances qui commence, mais aussi à l'évolution de la fréquentation. Dès ce samedi, les taxibots feront les rotations entre Moselle et le Vallon d'Or de 7h à 17h avec un départ toutes les heures. Entre le Vallon d'Or et Boulary, les départs se feront entre 6h30 et 16h30. Attention, dimanche, les navettes ne circuleront pas. Et puis à partir de lundi, le Maridé effectuera un aller-retour à 5h entre Moselle et le Vallon d'Or. Puis, il faudra attendre 15h pour que les taxibots circule jusqu'à 17h. Enfin, le Coral Palm effectuera une dernière rotation à 17h30. En ce qui concerne la liaison entre le Vallon d'Or et Boulary, il y aura seulement deux taxibots entre 6h10 et 7h30 le matin et puis entre 15h20 et 17h l'après-midi. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la province sud dans l'onglet Navette Maritime.
Merci Léo Fichou. Voilà qui met fin à cette page dans ce journal. Nous verrons après la pause comment se porte le secteur de la santé en province nord.
C'est la fin d'année et Mobile Nouvelle-Calédonie vous réserve une surprise exceptionnelle. Jusqu'au 15 décembre, Mobile vous offre l'opportunité de remporter un iPhone 16 chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, 4 iPhone 16 à gagner avec un tirage au sort tous les lundis. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Mobile Nouvelle-Calédonie. Abonnez-vous à notre page et jouez dès maintenant. Ne manquez pas votre chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Mobile Energy lives here.
Vous avez récemment constaté la présence de nuisibles dans votre habitation ou local professionnel? Vous souhaitez anticiper une future infestation? Radical, une équipe à votre écoute et des devis gratuits. Radical, c'est radical. Contactez vite le 26 26 67, info Facebook Radical.
Marlène Alma, Païta et Port Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Oui, le recul de l'offre de soins en province nord inquiète. Les membres du collectif SOS du Nord Santé en péril étaient mobilisés hier devant les hôpitaux de Coumac, Conné et Poindimier pour faire entendre leur voix. Dans certaines communes, la situation médicale est même critique. À Coumac, par exemple, le service des urgences n'est ouvert qu'en journée de 8h à 16h, tout comme les consultations médicales. Le maire de Coumac, Wilfried Weiss, a reçu hier le collectif pour tenter de trouver des solutions. Pour lui, il faut revoir la répartition des compétences entre les institutions de Nouvelle-Calédonie. Ce dossier urgent devrait être porté au plus haut, soit par le gouvernement calédonien.
La province nord est compétente concernant les CMS, mais de l'autre côté, on a le CHM, l'hôpital de Coumac et l'hôpital de Poindimier, qui sont des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Et il n'y a aucune passerelle entre ces deux structures, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour avoir une politique commune. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le schéma de soins et de santé en Nouvelle-Calédonie, de façon qu'il n'y ait plus qu'une seule structure qui serve à l'ensemble des établissements hospitaliers? Parce qu'en mutualisant, on va faire des économies d'échelle, même quand une personne veut venir s'installer, c'est le parcours du combattant. Peut-être qu'en ayant une gestion commune, on pourrait avoir des médecins privés ou des infirmiers privés qui pourraient travailler à mi-temps ou à quart-temps, etc., dans les hôpitaux ou dans les CMS.
Un groupe de travail a été créé à l'issue de cette rencontre entre la mairie de Coumac et le collectif. L'objectif sera ensuite de porter au gouvernement les revendications pour pouvoir organiser une réunion à Coumac avec les maires de la province nord, le président de la province, les coutumiers et des membres du gouvernement.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et oui, au cœur de Noël, l'opération solidaire avec RRB est lancée depuis la semaine dernière pour que Noël soit une fête pour tous. Et la générosité des Calédoniens est au rendez-vous, Jean-François Baudin.
Ah oui, on vous l'a déjà dit, mais on va le redire. C'est un bonheur de vous avoir pour auditeur. Vous êtes nombreux à vous mobiliser pour cette opération. Il y a eu cet après-midi un auditeur qui a fait livrer vraiment une montagne de jouets, des jouets neufs dans du papier cadeau, emballés avec l'âge, si c'était pour des garçons ou pour des filles. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre des familles heureuses pour Noël, notamment notamment celles qui sont dans la difficulté, qui ont été mises dans la difficulté à la suite des exactions. Donc vraiment, votre mobilisation est une fois plus exemplaire, même si cette année, on l'a cantonné entre guillemets au cadeau pour les enfants de 0 à 16 ans. Eh bien, vous êtes vraiment parfaitement dans ce qu'on a souhaité mettre en place cette année. Donc vraiment, un grand, grand merci à tous et continuez, parce que nos associations partenaires ont besoin de ces cadeaux pour les familles en difficulté. Elles seront distribuées avant Noël, tous ces cadeaux. Donc on compte encore sur votre générosité pour participer à cette opération qui se poursuit.
Passons à l'actualité dans le Pacifique. En Australie, le gouvernement a procédé hier à l'ouverture officielle d'un centre opérationnel et de perfectionnement des forces de police du Pacifique Sud. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ce centre régional a été ouvert à Brisbane par le commissaire Kershaw, directeur de la police fédérale australienne, en présence de 22 chefs des services de police du Pacifique. Le gouvernement australien a investi une somme équivalente à près de 30 milliards de nos francs dans sa construction. Le centre en question aura pour principale attribution de coordonner les opérations régionales de police telles que troubles civils, catastrophes naturelles ou événements majeurs. À cet effet, plusieurs hauts fonctionnaires de police de la région y seront affectés. Il aura aussi pour rôle de préparer les policiers susceptibles d'être déployés dans le Pacifique Sud. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et terminons ce journal avec un mot de sport, de la natation. La finale cette nuit du 100 mètres nage libre aux Mondiaux en petit bassin à Budapest. Le Calédonien Maxime Grousset n'a pas forcé pour passer le stade des séries et des demi-finales. Mais cette nuit, à 3h40, le Calédonien devra élever son niveau et peut-être même battre son record personnel pour remporter la médaille d'or. Pour rappel, la nuit dernière, il avait réalisé le 4e meilleur temps des demi-finales en 45 secondes 59. Derrière Igor Kornev, en 45 secondes 52, Jack Alexis en 45 secondes 29 et Jordan Crooks en 45 secondes 22. 18h21 et c'est en seulement quelques secondes que nous passons à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Nicolas. Attention parce que toute la Calédonie est passée en vigilance jaune, forte pluie et orage, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Et c'est cette nuit sur l'est, la pointe sud et l'île des Pins aux loyautés que les averses deviendront plus fréquentes avec encore un risque orageux. Sur le nord-est, des averses faibles à modérées seront attendues. Sur les autres régions, les averses s'estomperont progressivement et le temps deviendra généralement sec en fin de nuit sous un ciel passagèrement nuageux. Les températures minimales évolueront peu par rapport à la nuit précédente. Elles seront généralement comprises entre 24 et 26 degrés, localement 22 degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, des averses généralement faibles à modérées circuleront dans le flux de nord-est et toucheront la façade est ainsi que les loyautés. Elles pourront être localement fortes, en particulier sur le sud-est. Ailleurs, le ciel sera souvent nuageux. Quelques éclaircies apparaîtront sur l'ouest et de faibles averses seront possibles, même si le temps sera le plus souvent sec. Le vent sera souvent variable, faible sur l'ouest. Ailleurs, le vent d'est à nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds, localement sur la pointe sud de l'île des Pins entre 10 et 15 nœuds.